Alors, vous parlez un petit peu de la nouvelle évangélisation. Vous avez la chance d'être la génération perdue.
Ouais, c'est génial.
En Dieu. Perdue en Dieu. Et c'est vrai qu'on dit que toute la dernière génération sont une génération sacrifiée, d'après les sociologues, et perdue. Eh bien, moi, je persiste à dire que c'est une génération sacrifiée dans le sang du Christ et perdue en Dieu qui va donner une extraordinaire Pentecôte. Ah, vous ne le saviez pas, mais je vous l'annonce. Et c'est vrai, parce qu'il y a un défi extraordinaire que nous vivons aujourd'hui, le défi de la foi, le défi d'une société qui se capsule trop souvent sur son plaisir, sur ses préoccupations, sur son matérialisme. Et nous avons cette chance extraordinaire d'avoir le trésor de la foi. Rendez-vous compte d'abord. On ne peut pas évangéliser si on ne prend pas conscience du trésor reçu. Tout est là. Plus on est conscient du trésor de la foi, plus on ne peut pas le garder pour soi. Et c'est ce que dit le pape François dans sa belle, vous l'avez lu, je suppose, si vous ne l'avez pas lu, il faut vite aller l'acheter, ça coûte que 5 euros. La joie de l'évangile, Evangelico Dei, je vous citerai quelques passages, et je voudrais rappeler que on est dans une somme extraordinaire aujourd'hui de miséricorde, en particulier à travers les 3 derniers papes. Je prêche ça devant les jeunes depuis plusieurs mois. Les 3 derniers papes, alors tous les papes sont des bénédictions généralement, bien sûr. Encore que du temps des Borgia, ce n'était pas tout à fait une bénédiction. Mais, c'est ça qui est extraordinaire, la promesse de Jésus passe même à travers les papes plus ou moins pécheurs. Voilà. Et ça, c'est magnifique parce que ça veut dire que, comme pour Pierre, qui est un fondement pour l'Église, eh ben, Dieu passe à travers la fragilité des hommes. Comme dira saint Paul, nous le portons, ce trésor, dans des vases d'argile. Et c'est pourquoi on ne peut pas se décourager. Parce que cette puissance qui est en nous, elle est plus forte que notre péché, plus forte que nos découragements, plus forte que la mort. Et ce mystère qui est en toi, c'est la promesse de Jésus. L'évangélisation, elle est dans la promesse de Jésus, du don de l'Esprit. Et quand il y a le don de l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Père et le Fils viennent par l'Esprit. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous vivrons en lui. C'est un truc de fou. Il n'y a que l'incarnation de Dieu qui a pu provoquer cette folie de devenir. Dans l'Ancien Testament, ils avaient des promesses, ils avaient des bénédictions, l'Esprit déjà tombé sur certains, mais ils n'avaient pas Dieu en eux. Ils n'étaient pas le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est fou. Alors, c'est vrai que parfois, dans la vie, on a du mal à s'en rendre compte. Et c'est pourquoi vous avez un groupe de prière, vous avez des temps forts, où là, vous prenez conscience beaucoup mieux que Dieu est en vous. Et que vous n'avez pas de peur à avoir. La première grâce de l'évangélisation, c'est celui qui est évangélisé. L'évangélisation commence par l'évangélisation profonde de mon cœur. Et c'est tellement beau. Et les 3 derniers papes, je reviens à eux, pour moi, ils sont les 3 vertus théologales. Je m'explique. Jean-Paul II, ça a été l'espérance. Oh, voilà, les GMJ, ceux qui ont participé à Cologne ou ailleurs, ou à Madrid, ou voilà, et Rio plus récemment avec le pape François. Et ça a continué bien sûr avec Benoît XVI. Mais Jean-Paul II a été l'initiateur quand même des JMJ. Et c'est le pape de l'espérance. Voilà, quand on pense à Jean-Paul II, il vous donne la pêche de suite, quoi. C'est l'espérance. Et c'est vrai qu'à une époque, après Paul VI, où l'Église a vécu quelque chose de très difficile après le Concile, Paul VI a été vraiment le pape de la croix, d'une certaine manière. Et Jean-Paul II nous a redonné l'espérance. Il est allé jusqu'au bout. Et il a, jusqu'à son extrême maladie, son extrême vieillesse, c'était magnifique, les derniers JMJ au Canada, quand tous ces jeunes lui tenaient la main et qu'il n'avait plus de force, et tous ces jeunes autour de lui, c'était magnifique. On lui a redonné tout ce qu'il avait donné. Et ça, quand on donne de l'amour, l'amour vous revient. Et il vous ouvre le cœur, toujours plus fort. Benoît XVI, c'est notre Benoît, pape émérite maintenant, tout caché, d'extraordinaire. Il vit une vie de prière, d'étude, comme un moine maintenant, au cœur du Vatican. Et ça a été le pape de la foi. Voilà, grand théologien, pour moi un père de l'Église, extraordinaire. La foi, il nous a donné. Et il nous a fait rentrer dans l'année de la foi. Et il nous a fait vivre l'expérience de la foi, parce qu'en plein milieu de l'année de la foi, il est parti. Et puis on n'était plus, je ne sais pas vous, à l'époque. Moi, j'étais un peu, même pas un peu, beaucoup même. Ça nous a surpris. On a jamais, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le pape qui s'en va, il démissionne. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'épreuve de la foi. Et dans nos vies, c'est comme ça parfois. Il y a des trucs super, et puis tu dis, ça lâche, c'est... Oh, on est... Ma peur. C'est ça, parce qu'on a la jambe qui tremble. Qu'est-ce qui va se passer? Et la foi, la foi. Et Jean Benoît XVI nous enracine à la profondeur de la foi. Et notre François, maintenant, c'est le pape de l'amour et de la miséricorde. Les trois vertus théologales. Jean-Paul, espérance. Benoît, foi. Et François, vraiment, l'amour. L'amour jusqu'à la folie de la miséricorde. Alors, dans ce contexte-là, c'est magnifique. Parce que vous, sous ce pontificat de François, vous les jeunes particulièrement, comme il a dit à Rio, et comme l'avait lancé Jean-Paul II déjà à son époque, il faut aller crier l'Évangile. Mais crier l'Évangile, c'est ce que disait un saint qui disait « Je dois crier l'Évangile par toute ma vie. » Et l'évangélisation, et alors, c'est très beau ce que dit justement, enfin je ne vais pas relire sans arrêt tout ce qu'il dit, mais il dit que quand le Christ nous appelle à évangéliser, il nous renvoie à la foi vécue au quotidien. La première évangélisation, c'est la foi vécue au quotidien. Et quand on essaie de vivre cette foi et qu'on en vit vraiment à travers les sacrements, à travers la prière, à travers la charité paternelle, à travers la louange, à travers aussi la parole donnée aux autres de toutes les manières, eh bien tout à l'heure, c'est toi qui disais, quand vous êtes allé, je crois, à Saint-Jacques de Compostelle, tu disais, à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne maîtrisait plus. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas des techniques. Alors, bien sûr, une belle animation, une disponibilité du cœur, une liberté, voilà. Mais ce n'est pas au sens strict des techniques. C'est comme une coupe qui s'offre. Hein. C'est comme des mains qui s'ouvrent. Qu'est-ce que c'est ? L'évangélisation, c'est le cénacle et la Pentecôte. Et il faut qu'il y ait un long cénacle pour qu'il y ait un big bang d'amour. Il faut qu'il y ait un long cénacle avec Marie. Et je suis tellement heureux de savoir que vous dites une dizaine, que vous priez Marie. Parce que s'il n'y a pas Marie, il ne peut pas y avoir l'overdose d'Esprit Saint. C'est par Marie que ça vient. La première Pentecôte, je le dis souvent, c'est à l'Annonciation. Souvenez-vous. Que lui dit l'ange, l'Esprit viendra sur toi. L'Esprit viendra sur toi. Et voilà, et il descend sur Marie et il prend de la chair de Marie, il prend du sang de Marie pour faire un corps au Fils de Dieu qui va s'incarner, qui va se faire homme. La première Pentecôte, elle est mariale. Toute l'Église est là dans l'Annonciation. Quand Marie dit oui, toute l'Église est là, elle est née. Elle n'est pas née à la Pentecôte. Bien sûr, elle est née visiblement à la Pentecôte. Mais elle est née secrètement dans le oui de Marie. Et voilà pourquoi le secret de Marie, il est dans ce oui de Marie. dans cette profondeur de Marie, et en même temps dans cette louange de Marie. Dans le fond, l'Église, c'est à la fois l'Annonciation et la Visitation. Quand j'ai reçu Dieu, ben, je n'ai qu'une envie à un moment donné, et ça c'est le signe de ma santé spirituelle, de le porter, comme la Vierge Marie qui part sur les routes pour aller voir sa cousine, parce que c'est la charité, parce que c'est l'amour. Et quand Marie prend la route, comme l'ont dit des papes, elle est le premier ostensoir. Voilà. Elle porte Jésus, comme le prêtre y porte Jésus tout à l'heure dans un ostensoir. Marie, c'est l'ostensoir vivant. Et c'est magnifique, c'est ce que dit Benoît XVI, le premier ostensoir. Et voilà, ce double rythme, annonciation, visitation. Et ça va se faire après visible au Cénacle avec tous les disciples, les apôtres et la Pentecôte et ce Big Bang. Parce que la Pentecôte, c'est la réponse du premier Big Bang de la création. Quand Dieu dit que, voilà, que la lumière soit. Oula, la parole de Dieu est créatrice. Et tout le Cénacle où les apôtres se sont... Et chaque fois que vous êtes Maranatha en prière, en louange, en adoration avec Marie, eh bien, c'est l'Église qui... C'est Jean-Paul II encore qui disait, l'Église n'a jamais quitté le Cénacle. Elle n'a jamais quitté le Cénacle pour accueillir les Pentecôtes nouvelles de l'Esprit. Voilà. Et Jean 23, qui va être canonisé, c'est ça, plutôt. Eh bien, avec Jean-Paul II, eh bien, Jean 23 a promis qu'à travers le Concile, il y aura une nouvelle Pentecôte. Mais Paul VI, il a dit mieux, il a dit, c'est maintenant que va commencer une Pentecôte continuelle, Paul VI. Et qu'est-ce qu'on voit à travers les trois derniers papes? Eh bien, on voit des épreuves, mais on voit ce flot de l'Esprit-Saint qui commence à se répandre. Alors, c'est vrai qu'à côté de ça, il y a les puissances, les vents contraires. Il y a le Satan, il y a les ténèbres, il y a la femme face au dragon, Apocalypse 12. C'est vrai, tout ce grand combat, il est là. Mais nous savons que son enfant, l'enfant de la femme, c'est-à-dire Marie, mais aussi l'Église, parce qu'à travers Apocalypse 12, c'est à la fois Marie et l'Église, eh bien, elle va partir au désert, où elle va être nourrie, elle va être protégée, et elle sera vainqueur du dragon. Voilà, c'est pas un beau film ou un film angoissant. C'est la vérité. On n'a pas besoin d'aller voir les films catastrophes 2012 et compagnie. Il y a tout dans la Bible. Et la Bible, ce n'est pas une série de catastrophes, c'est une série de révélations. C'est-à-dire, Apocalypse 6 du grec, ça veut dire révélation. Ça veut dire que petit à petit, dans les hauts et les bas de l'humanité, dans les combats terribles, dans les choses horribles aussi, l'amour de Dieu se révèle. Parce que même dans la Shoah, il y avait des saints, il y avait des saints. Je pense à la petite Thérèse Bénédicte de la Croix, juive convertie. Vous la connaissez sans doute, vous avez entendu parler au moins, qui est copatronne de l'Europe maintenant. Et elle était là, dans la Shoah, et elle disait, c'est la croix du Christ sur mon peuple. Et elle disait à sa sœur, viens, nous allons dans la passion du Christ. Évidemment, il faut avoir un regard de saint pour voir ça, parce que quand on regarde la Shoah, c'est un truc horrible, c'est affreux. Alors, c'est la foi qui fait l'évangélisateur. C'est la foi qui donne le devoir à travers les violences, les horreurs de l'humanité, en même temps, un cri terrible de détresse vers Dieu. Parce que ne l'oubliez jamais, l'évangélisation, c'est de ne jamais être le jouet des apparences. Les apparences peuvent être terribles. Regardez, qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie de Jésus? Il a promis la résurrection, il a promis l'amour, il a promis des choses fabuleuses, tout le monde l'a suivi, et il meurt sur une croix. Parce que Dieu est allé jusque-là pour que personne ne doute qu'il est aimé. Personne. Et c'est ça qui est merveilleux. Et voilà pourquoi la croix pour nous, c'est jamais, c'est terrible, c'est un drame. Mais en même temps, ça ne peut pas être triste parce que c'est là que nous touchons la folie de l'amour de Dieu. Et sur cette croix, à côté, il y a Il y a deux malfaiteurs, il y a deux larrons, il y a deux tueurs, peut-être des serial killers, comme on dit aujourd'hui. En tous les cas, du temps des Romains, quand on était crucifiés, quand on avait fait des choses assez terribles, des meurtres en général. Et celui qui dit à Jésus, souviens-toi de moi. Voilà que Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. L'évangélisation, c'est de croire que le plus pourri, le plus ennemi, le plus salaud, le plus terrible, le plus infect peut devenir le saint Paul de demain, peut devenir le saint de demain. Vous ne pourrez jamais évangéliser si votre foi n'a pas cette intuition que ce que je vois, bien sûr, c'est réel, c'est maintenant. Mais ce que Dieu prépare pour les hommes, et il s'appuie sur notre foi. C'est ça qui est fou. C'est le mystère de l'Église. On dit, oui, mais Dieu est tout puissant, on le chante, il est tout puissant. Oui, c'est vrai, mais Dieu a pris le risque de l'Église. Et le risque de l'Église, c'est toi, c'est moi. Ça veut dire que si tu ne réponds pas, eh ben, ton frère, il va crever. C'est ça que ça veut dire. Alors, évidemment, on ne va pas se flageller, on ne va pas se culpabiliser. Mais n'empêche, c'est une pression de l'amour. Moi, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est une pression de l'amour. L'amour est libre, bien sûr. Jésus peut toucher un cœur s'il veut, voilà. Mais vous savez combien Jésus, on le voit dans les évangiles, combien il est respectueux de la liberté de chacun. Il va tout faire pour sauver l'homme, mais il ne le forcera jamais à l'aimer. Autrement, ce n'est plus l'amour. Or, Dieu est amour. Voilà pourquoi l'enfer est possible. Voilà pourquoi l'enfer existe. Parce qu'on peut refuser éternellement cet amour. C'est la grandeur terrible de la liberté. Et l'évangélisation, c'est l'angoisse des saints, si on peut parler d'angoisse. Mais un saint Dominique passait des nuits entières, et il est devant la croix, les bras en croix, il disait, mais Seigneur, que vont devenir les pécheurs? Que vont devenir les pécheurs? Et il suppliait. L'évangélisation, c'est ce regard qui ne supporte plus que mon frère, ma sœur, ne fasse pas l'expérience d'être aimé, comme je commence à en faire. C'est ça l'évangélisation. Et Jean-Paul II a cette expression magnifique. Il a dit devant 80 000 jeunes, c'était sur les bords du lac de Côme, c'était en 94, il a dit, je vous donne comme mission de préserver le sourire du monde. Parce que c'est vrai, ce sont les chrétiens qui ont la clé de la joie. C'est ce que dit le pape François. Ce sont les chrétiens qui ont la clé de la joie. On n'est pas meilleur que les autres, on peut être même pire, mais parce qu'on a reçu ce don de la foi, tout est possible. Tout est possible dans ma vie et dans celle des autres. C'est un père de l'Église qui disait, le chrétien qui prie, il tient le gouvernail du monde. C'est extraordinaire ça. C'est toi qui tiens le gouvernail. On tient le gouvernail. Parce que si ce monde tel qu'il est barré en ce moment, il est en train d'aller se fracasser vers un grand abîme, eh bien, par la puissance de l'amour qui vient de la prière, nous allons relever ce défi et ce gouvernail, nous allons l'orienter vers les bras de Jésus. C'est beaucoup mieux. Celui qui prie, dit un père de l'Église, il tient le gouvernail. Donc, quand vous vous réunissez en tant que Maranatha, vous êtes déjà en évangélisation. Comme nous l'avait dit un évêque dans une mission Jeunesse Lumière, un jeune évêque en Belgique, on était en mission dans les rues, et il dit, quand je vois la joie du Christ que vous donnez à tous ceux que vous rencontrez, je me rends compte, disait-il, que l'évangélisation se fait par contagion de bonheur. Virus de l'amour qui rentre et qui fait que petit à petit on est pris. Alors, j'aurais tellement d'autres choses à vous dire, mais je terminerai pour ne pas être trop long. Ce que nous allons vivre dans les années à venir, c'est l'évangélisation dans le défi de l'espérance. Les derniers sondages disent
sur des jeunes, il y a une émission qui est sortie il y a quelques jours sur des jeunes à France Télévisions, je ne sais plus quelle chaîne, et qui disait que les jeunes, ils voudraient essayer d'aimer la vie, tout ça, mais ils sont angoissés pour leur avenir. C'est très sombre. Ils veulent vivre, ils ont dit, mais voilà, c'est très sombre. Et ça touche l'espérance. Et une jeunesse qui n'a plus d'espérance est une jeunesse qui est déjà à moitié morte. Parce que la jeunesse, c'est le temps, justement, où on a des grandes espérances. Et si on ne les a plus, alors, évidemment, on vire vers des choses qui sont mortelles. Et je vous cite Benoît XVI dans Spe Salvi, cette très belle encyclique sur l'espérance. Il dit, citant l'épître aux Éphésiens, les Éphésiens, vous savez, c'est connu les Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, on l'avait lu plus d'une fois. Bien, il y a ce passage dans l'épître aux Éphésiens, lorsqu'on parle des païens, des gens qui sont matérialistes, qui n'ont pas la foi, ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ben, c'est comme ça aujourd'hui, pour beaucoup. Ils étaient sans espérance et sans Dieu, et dans le monde. Et Benoît XVI ajoute, c'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient vivable. Et le message chrétien, disait Benoît XVI, n'est pas simplement informatif, je te donne une information, Jésus t'aime, d'accord. Mais il dit, il est performatif, c'est-à-dire qu'il agit sur les cœurs. Quand tu annonces Jésus, silencieusement, par ta vie, par ta joie, ou par la parole, ou par la musique, ou par la louange, ou par toutes sortes, parce que l'évangélisation, c'est la créativité de l'Esprit-Saint. Plus je rencontre de groupes de jeunes, ce soir je vous ai vu louer, eh bien, la louange de Maranatha, c'est vraiment la louange de Maranatha. Il y a une touche spéciale. Je vais souvent à Paris dans le groupe Abba, que j'aime énormément, magnifiques de jeunes aussi, qui sont nés aussi des JMJ, et bien quand on écoute Abba, alors c'est il y a la touche Abba, il n'y a rien à faire. Voilà. Et j'irai en Bretagne au mois de juin dans le groupe, peut-être que vous connaissez, Bethesda, Bethel Génération, tous ces gens-là. Bien, quand j'entends le CD qu'ils m'ont envoyé, ah, je me dis, waouh, encore un autre son. Ça, c'est magnifique, c'est toutes les musiques de l'Esprit-Saint, c'est extraordinaire. Un peuple qui loue avec une louange toute spéciale. Et c'est ça qui fait que chacun est unique. Évangéliser, c'est se rendre compte que Jésus, par ton visage, par ton regard, par ta parole, par ta pauvreté, mais aussi par ta joie, va dire à mon frère, à ma sœur qui est loin, comme dirait François, aux périphéries, très loin, eh bien, va dire Dieu d'une manière unique. Parce que c'est déjà le mystère du ciel. L'évangélisation, c'est déjà le mystère du ciel, où chacun est unique. Au ciel, tu me diras Dieu d'une manière unique. Et je dirai, waouh, c'est génial. Et quand tu me diras, tu feras, waouh, c'est génial aussi. Bon, je parle encore avec les mots de la terre. N'empêche que c'est vrai. Et l'évangélisation, c'est déjà le ciel. Parce que Jésus, par ton visage, par tes mains, par ton cœur, par ta manière d'être, par tout ce que tu es, veut se dire par toi. Ce n'est plus moi, dit saint Paul, qui vit, c'est le Christ qui vit en moi. C'est notre parole phare. Et pour cela, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Et pour ça, il faut l'appeler sans arrêt. Et il faut prier Marie, parce que Marie est complètement liée à l'Esprit-Saint. Il y a un mystère entre les trois. Si tu veux que l'Esprit-Saint te fasse un cœur nouveau, alors plonge dans le cœur immaculé de Marie. Parce que c'est la plus belle œuvre qu'il a faite. Comme disait Saint-Grégoire de Montfort, on en parle au repas. Et il y a deux manières pour être un saint. Alors voilà, il n'y en a pas 36 000. À vous de choisir. Hein. Deux. Voilà. Alors, il y a le chemin. Voilà. Il faut faire des efforts. Il faut prier. Il faut pratiquer des vertus. Il faut aimer son prochain. Il faut... Voilà, et tout ça c'est bon, hein, il faut essayer de le vivre, c'est évident, ça fait partie du chemin, mais c'est la manière sculpture. Hein, j'ai rien contre la sculpture, hein, s'il y a des sculptures ici, mais sculpte, un petit coup par là, puis des fois, ah mince, oh là, j'ai loupé un peu, ah, bon, il faut recommencer. Voilà. Alors ça prend du temps, ça fait, c'est très très long. Par contre, si tu vas dans les bras de ta maman, si tu plonges dans le cœur immaculé de ta maman, là il y a un moule parfait, c'est-à-dire la ressemblance de Jésus, et ça va beaucoup plus vite. C'est sûr qu'entre un moule et une sculpture, il faut du temps. Alors à toi de réfléchir. Marie, c'est pas simplement un petit pot de fleurs maternelle à côté de toi. C'est une vie. C'est le chef-d'œuvre de l'Esprit-Saint. C'est le chef-d'œuvre de la rédemption. Elle est le chef-d'œuvre du salut. Et ça, c'est merveilleux. Quand on l'a compris, c'est pour ça qu'on a le chapelet toujours dans les mains. Mère Teresa, vous n'avez pas remarqué, partout où elle était, là, aux États-Unis, partout au bout du monde, elle témoignait. Chaque fois qu'elle parlait, les gens étaient bouleversés. Elle avait toujours le chapelet qui parlait entre elles, sans arrêter, tout le temps en prière avec Marie. Prenez Marie. Parce que vous avez, et c'est mon dernier propos, à devenir des prophètes. Qui, moi, Seigneur, prophète? Oh, mais non. Je vais pas arrêter la circulation entre Saint-Chamond et Saint-Étienne. Ça se fait pas. Non, lui, là, peut-être, mais non, comment? On n'y croit vraiment pas assez. Les prophètes, avant Jean-Baptiste, ils annonçaient un salut à venir. On dit des choses. Il y a le prophète Élie, parce que lui, c'est le père des prophètes. Il y a Isaïe, il y a Jérémie, il y a ce. Des choses absolument, on en vit toujours, hein. Mais ils annonçaient quelque chose à venir. Toute la différence avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il ne fait pas des prophéties pour l'avenir. Jean-Baptiste, il dit, il est là. C'est ça la prophétie, la vraie, aujourd'hui, dans le temps de l'Église. Et Jean-Baptiste avait un pied encore dans l'Ancien Testament et un pied dans le Nouveau. Et c'est lui qui disait, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. C'est lui qui disait aussi, ma joie est maintenant parfaite, parce qu'il y a l'époux qui est là, et il y a l'épouse, l'Église. Je peux partir, ça y est. C'est un mystère qui est. Eh bien, qu'est-ce que c'est être prophète? Je vais vous dire ce que c'est. Je vais laisser parler Paul VI, parce qu'il a une dans l'encyclique Evangelii Nuntiandi, sur la mission, justement, il dit une chose extraordinaire. Le prophète, retenez ça, c'est celui qui a le feu dans le cœur. Parce qu'il n'y a pas le feu, personne ne sera intéressé. Le feu. Et le feu, il s'acquiert par la prière, par l'humilité, par la persévérance, par l'amour, par le don de soi. Le feu. Le prophète, il a la parole sur les lèvres. Il est l'écho de Jésus. Il est la parole de la parole, du Verbe de Dieu. Il a la parole. C'est pour ça qu'il faut aimer la parole de Dieu. Il faut faire la lectio divina. Il faut vraiment la parole sur les lèvres. Et enfin, il a, dit Paul VI, la prophétie dans le regard. Ça, c'est magnifique comme expression. La prophétie dans le regard. C'est-à-dire que dans son regard, je vois Dieu. Le petit curé d'Ars, qui avait de très beaux yeux bleus au passage, et qui t'a rendu encore plus beau par le Seigneur, apparemment, c'était sur ça qu'il avait de beau. Enfin, il avait des beaux yeux. Le petit curé d'Ars, il y avait des gens qui venaient, qui faisaient des milliers de kilomètres pour voir cet homme. Et pourquoi? Parce que quand il le regardait, il voyait Dieu. Voilà, la prophétie dans le regard. Extraordinaire comme expression. Donc, vous répétez avec moi. Le prophète, il a le feu dans le cœur. Ensuite, il a la parole sur les lèvres. Et enfin, il a la prophétie
dans le regard.
Dans le regard.
C'est
n'a pas besoin, dans le fond, comme moi je fais, de beaucoup parler, dans son regard. Et c'est très significatif. Bon, Jésus s'est pas empêché de parler dans l'évangile. Des fois, il parlait des heures. Si bien que les gens, ils n'avaient même plus faim, évidemment, en fait, la parole était là. Alors, bon, à un moment donné, il se réveille au désert, il dit, bon, maintenant, il faut manger, il n'y a plus rien, il n'y a même pas de pain. Hein, mais il avait parlé, pratiquement, d'après ce que dit l'exégète, presque une journée entière. De fou. Mais oui, mais quand la parole est avec vous, le temps s'arrête. C'est l'éternité au milieu de nous. C'est Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on vit cette prophétie, quand on est prophète, eh bien, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais par votre parole, par votre regard, par votre témoignage de vie, vous arrachez le voile. C'est-à-dire que vous arrachez, les gens, ils ont un voile sur là, qui les empêche de voir. C'est terrible. Et il faut vous dire ça dans les rues. Tous ces gens, quand vous allez dans un supermarché, quand je parle, souvent je parle de la solitude du caddie. Tout le monde se parle. Et personne ne se parle. Mais c'est terrible, hein. Moi, quand je vais à un supermarché, souvent j'essaie d'adresser la parole aux gens. Terrible, quoi. Après, je me venge avec les caissières, parce que bon, les caissières ont tellement marre de toujours de tourner les machins, quand on parle un peu, ça me fait du bien. Non, mais c'est vrai, c'est terrible. On voit bien que les gens, alors ils peuvent être apparemment même heureux, tout insouciants, tout ce que vous voulez, mais ils ont un voile. Ils ont un voile. Comme nous. Moi, je l'ai eu pendant des années, ce voile. Donc, c'est pas moi qui l'ai critiqué. Mais voilà. Et bien, par ta joie, par ton espérance, parce qu'on voit dans ton regard, dit « Ah, mais celui-là, il a un regard spécial. Ah, mais celui-là. » Et même quand il est malheureux, on sent sur lui qu'il y a quelque chose. Hein? Moi, j'ai vu des chrétiens qui ont témoigné dans les entreprises que même à travers leurs épreuves, ben, les gens disent « Mais comment tu fais, moi, à ta place, je serais complètement au 36e dessous et toi, tu sais ?» Ils disaient ben, « C'est Jésus. Alors Jésus, ce n'est pas la solution à tous les problèmes, ce n'est pas ça non plus. C'est celui... Vous savez, les apôtres, comment ils sont définis dans l'Évangile? Au début de Saint-Marc, Jésus monta, il alla sur la montagne, il pria, et il en appela 12. Alors il y a deux sélections, là. Il y a un premier temps où il y a les premiers disciples, bon, et après il y a les apôtres, les 12, pardon, les fondements. Et pourquoi il les appelle? Pour être avec lui. C'est magnifique. C'est tout simple. Pour être avec lui. C'est-à-dire vivre une intimité avec lui. C'est là que commence l'évangélisation. Et, alors ensuite, pour les envoyer prêcher. Mais l'ordre, c'est pour être avec lui. Et pendant 3 ans, ils ont été avec lui pour être témoins. Notre foi repose sur le témoignage des apôtres. Hein, c'est ce qu'on appelle le témoignage apostolique. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est Maranatha? C'est beau que vous ayez ce titre. C'est Maranatha. Le Seigneur vient. Viens, Seigneur. Donc, vous êtes une petite groupe de prière qui manifeste la fin des temps, l'accélération de la fin des temps, comme je dis, où vraiment on désire de maintenant, ça suffit, Seigneur, viens. Voilà. Alors, bon, peut-être c'est dans 200 ans. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est l'intensité de l'attente. L'intensité de l'attente. Et je terminerai par là. Quelque chose que les frères et sœurs savent, que je dis souvent. Celui qui attend, c'est celui qui a. Quand on ne sait pas attendre, il n'y a pas l'amour encore. Et on est dans une société du tout de suite, dans une société du jetable, dans une société qui est le contraire de ça. Et voilà. Les premiers chrétiens vivaient comme si Jésus allait arriver demain soir. Bon, ils ne l'ont pas vu. Mais dans le fond, ils étaient dans la vérité. Parce que l'amoureux, c'est comme les vierges sages. Elles s'endorment aussi, hein, à un moment donné, quand même. Seulement, elles ont un cœur qui attend. Allez, elles peuvent s'endormir. Voilà, on est fragile, on est tous fragiles. On pille tous à la prière, c'est bien connu. Hein. Même les sœurs. C'est un sommeil très religieux, mais c'est un sommeil. Bon.
Même les prêtres.
Mais on l'attend. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Voilà, on a le droit d'être petit, petite Thérèse de Florence, on a le droit d'être faible, on a le droit d'être nul. Mais on attend. Il va venir. L'ascenseur, il va descendre. Voilà, c'est ça avec Thérèse. L'ascenseur, il va descendre. Jésus va venir. Et Thérèse dit, ma seule espérance, c'est les bras de Jésus. Alors vous comprenez, quand on commence à vivre ça, quand on commence à vivre cette libération, cette liberté du cœur, parce que c'est ça qui est merveilleux, c'est cette liberté du cœur, on est guéri d'une certaine manière. Bien sûr, dans nos vies, il y a encore des blessures, on tombe encore, c'est pour ça qu'on se confesse, on a encore des fragilités, on a des casseroles, on a des choses très lourdes même à porter parfois, tous. Mais on a cette espérance qui nous soulève, et ça c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce que l'espérance rend déjà présent celui qu'on aime. Oui, c'est ça la foi. Foi, espérance, hein, c'est très lié. Il est... Alors évidemment, on dit, mais, ben oui, mais c'est pour plus tard, quand même, la plénitude, c'est vrai. Et pourtant, c'est déjà là. C'est extraordinaire. La plus belle preuve, ben, c'est Jésus qui va venir maintenant. Dans cet hostie, apparemment, il n'y a rien. Une hostie. Avant ou après la consécration, c'est une hostie. Voilà. Et nous savons que non, après la consécration, comme disait le curé d'Ars, il est là. Voilà. Et ça, c'est l'Eucharistie, c'est vraiment l'image la plus belle du mystère de notre foi. C'est pour ça qu'on dit dans la messe, il est grand le mystère de la foi. C'est le mystère de ma propre vie. Parfois, il semble absent, et pourtant, il est toujours là. Alors, on va demander ce soir, pour Maranatha et pour chacun de nous, une attente renouvelée de Jésus. Vous voyez ? Qu'est-ce qui va faire les évangélisateurs d'aujourd'hui et de demain ? C'est une attente renouvelée de Jésus. Plus il y aura des ténèbres, plus on va l'attendre. Plus il y aura de violence, plus on va aimer. Et ça, nous savons que c'est impossible. C'est ça qui nous rend heureux, d'ailleurs. Et oui, comme c'est impossible, Jésus va débarquer. Voilà. C'est nos impossibles qui font venir Jésus. Et c'est, vous voyez, la petite Thérèse nous a aidés à être des pauvres heureux. Et j'oserais dire, comme elle, avec l'audace qui l'a caractérisée, des pauvres extrêmement puissants. Parce que si tu savais ce qui se passe chaque fois que tu loues le Seigneur, chaque fois que tu dis une dizaine ou un chapelet, chaque fois, hein, bon, c'est un truc de fou, hein, c'est des bombes d'amour chaque fois. Et je peux vous donner une preuve, si on peut parler de preuve, c'est à Medjugorje, le petit Jacob, quand, je raconte souvent cette histoire, mais quand il a eu les premières apparitions avec les autres, à Medjugorje, tout ça, avant, voilà, mais il continue à être un garçon, à aimer jouer au football, à aller s'amuser, voilà. Puis la Sainte Vierge lui a dit un jour, écoute, c'est bien, tu peux jouer au football, ça, mais de temps en temps, quand même, si tu pouvais dire, ne serait-ce que je vous salue Marie, pour m'aider, parce que la Sainte Vierge est dans le grand combat du salut, pour que le salut de Jésus triomphe. Il l'a fait. Alors, un jour, il joue au football, puis il dit au copain, attendez, je reviens, il est allé derrière un arbre, je me suis marié, et hop, il est revenu. Voilà, il a fait de tout son cœur, et puis hop, il a joué au football de tout son cœur aussi. Et le soir, à l'apparition, la Vierge lui a dit, merci, Jacob, avec le « je vous salue » que tu m'as offert, j'ai converti toute une famille en Chine. Vous comprenez ce que ça veut dire, les bombes d'amour ? Croyez-moi qu'après, on a envie de louer, hein, on a envie de dire le chapelet, on a envie d'adorer. Parce que ce n'est pas simplement pour moi, pour mon petit confort spirituel. C'est que ça va déborder sous le monde entier. Et que ce feu que vous chantez, ce n'est pas simplement pour se chauffer les mains. C'est parce que ce feu, il ne demande qu'une chose, c'est de prendre partout dans les cœurs. Et vous êtes, par votre oui,
Et c'est pour ça que la Vierge Marie est si importante. Si elle n'avait pas dit oui à l'Annonciation, on ne serait pas là ce soir. Voilà. La conséquence, 2000 ans après, c'est qu'on est là ce soir. Et cette petite jeune fille qui avait 15-16 ans de Nazareth, elle a dit oui. Et en disant oui, Dieu est venu. Et bien ça continue cette histoire-là. C'est l'histoire de l'Église. Tous les oui font renaître Dieu au cœur du monde et rendent l'Église toujours plus belle. Et bien c'est ce que je vous souhaite, et que Maranatha soit une belle étoile scintillante dans la nuit de ce monde. Amen.